9 avril, c'est l'anniversaire du décès d'un Allemand remarquable qui est mort en 1945, mais malheureusement si peu connu que je suis désolé des fois devant la grandeur de certains personnages et l'oubli dans lequel ils tombent. Quoiqu'en Allemagne, on a un bon souvenir de lui, je crois, c'était un grand écrivain, Theodor Hecker. J'appelle H-A-E. C-K-E-R, Theodor Hecker. C'est un homme vraiment extrêmement attachant, un laïc, père de famille, un autodidacte en plus de ça, mais remarquablement instruit par lui-même, vraiment remarquable. Un chapitre d'ailleurs du livre de Theodor Hecker, « Qu'est-ce que l'homme ?» publié en 1933, au commencement du régime national-socialiste nazi, hein, par conséquent, porte cette phrase en exergue. Le biographe de Newman, c'est-à-dire il s'agit du cardinal John Henry Newman, dont je vous ai déjà parlé, le biographe de Newman relate que le cardinal inclinait vers cette opinion mystique que, dans chaque génération, on vit vivent et vivront exactement 7000 justes qui n'ont pas ployé, dans d'autres termes, qui n'ont pas démissionné, si vous voulez, n'ont pas ployé, ne ploieront pas le genou devant Baal. Baal, c'est-à-dire ce dieu, cette idole du temps, n'est-ce pas, de nos ancêtres spirituels juifs de l'Ancien Testament. Au microphone, Raymond Beaugrand Champagne. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que Hecker lui-même fut un de ces 7000 justes, si on peut dire. C'est un beau chiffre, 7000 justes, un chiffre idéal, hein. 7, dans toute la tradition juive et chrétienne, porte un caractère de perfection, on pourrait dire. Alors, Hecker a été un de ces justes dans notre génération. Il est né, Theodor Hecker, le 4 juin 1879 à Eberbach, en Wurtemberg. Le Wurtemberg, c'est dans l'Allemagne du Sud. Hein. La capitale du Wurtemberg, c'est Stuttgart. Et c'était à l'époque, 1879, un royaume qui ne s'est rallié à l'Allemagne, si je me souviens bien, qu'à la toute fin de la Première Grande Guerre. Alors, il est né d'une famille protestante qui était établie dans cette province depuis des siècles et des siècles. Et il était fier de son pays. Hein. On appelle aussi ce pays souvent la terre Souabe, S-O-U-A-B-E. C'est un nom, un mot qu'on voit souvent et qui a des connotations souvent heureuses pour ce qui est de la beauté. Ça a donné à l'Allemagne, ça, cette terre, quelques-uns de ses plus grands poètes, à commencer par Schiller, dont il faudrait bien un jour que je vous parle, et ses autres génies plus intérieurs, plus lyriques, comme Hölderlin. Encore un autre dont il faudrait que je vous parle. Hecker a parlé peu de sa jeunesse. Nous savons seulement qu'elle a été dure. Theodor Hecker est une figure assez singulière, d'ailleurs. C'est un écrivain qui traitait des plus graves problèmes. Et pourtant, il n'avait pas reçu de formation universitaire. Un autodidacte, comme je vous l'ai dit. La philosophie ne nourrit guère, d'ailleurs, son homme. Hein. Or, Hecker n'a ni fortune, ni situation sociale bien assise. Heureusement, l'amitié active d'un éditeur lui a permis de penser puis d'écrire selon tous ses désirs. Et ses amis les plus proches le considéraient un peu comme un taciturne. Pas qu'il ne l'aimait pas, mais c'est un homme un peu taciturne. Parce qu'il ne savait se manifester qu'en conférence publique ou bien en écrivant des livres. Il en a écrit beaucoup. Il était affamé de vérité. Et c'était un homme qui cherche. Il étudie tout ce qui touche à la culture occidentale, aussi bien l'histoire, les littératures, parce qu'il a appris plusieurs langues, la philosophie surtout. Oui, ça l'a beaucoup intéressé, la philosophie, comme je le comprends. J'ai eu la chance de prendre une licence en philosophie, c'est passionnant. Il apprend le grec, le latin, le français, l'anglais, le danois, oui, le danois. Hein. Étonnant, hein? Eh bien, autodidacte. Il est amoureux du langage. Il parle d'ailleurs du langage avec un immense respect. Le langage, il faudrait que les Québécois, qui parlent souvent bien mal, malheureusement, je suis Québécois, 11e génération, alors je peux bien attaquer un peu par le ricochet, ce peuple que j'aime et auquel j'appartiens bien, Le langage, dit-il, appartient à la pensée comme le corps. Le corps vivant appartient à l'âme. Mais en dernière analyse, dit-il, la pensée est là pour la vérité, pour l'être. Et donc, le langage existe aussi pour la vérité des choses. En d'autres termes, parler, c'est fait pour cerner la vérité des choses, et ça ne s'exprime pas n'importe comment, ça. Il va même, Ecker, totalement, jusqu'à donner la prééminence non à la musique, mais au langage, qui a une dimension infinie de plus. Au risque de déplaire à tous mes amis qui aiment tellement la musique, je suis tout à fait de son accord. D'accord, je suis d'accord avec lui. Donc il a raison. La musique, c'est fantastique. Mais le langage, qui exprime des idées magnifiques, c'est infiniment supérieur. Il me semble bien plus beau de lire une page de la Bible, belle, que d'entendre même la plus belle musique. Et quand la musique s'unit aux paroles de la Bible, aux grandes paroles, au grand langage des plus grands penseurs, que c'est sublime, hein? Et parce que la corruption du langage va de pair avec la corruption de la pensée, dont elle n'est qu'un signe, Theodor Ecker fait ses premières armes contre ceux qui déshonorent ce langage. Et Ecker se lance donc à corps perdu contre les journaux, les revues à la mode, qui nourrissent la bourgeoisie de toute leur vulgarité. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il voyait nos kiosques à journaux? C'est la valeur marchande qui compte aujourd'hui, non puis le contenu de l'œuvre. Or, tout ce qui touche à l'esprit est sacré. Il ne doit pas se profaner. Il dit, je supporte, à la rigueur, avec la patience d'un russe, une chambre en désordre, un repas négligé, un lit qui n'est pas fait. Mais il faut que les choses de l'esprit soient à leur place. Autrement, j'en tombe malade et je deviens grossier. Et Theodor Ecker ajoute, telle est ma voie, ma lutte et mon dessein. Je n'ai pas de repos. Je débarrasse tout. Je brûle tout. Jusqu'à ce que je rencontre celui qui aime et qui est inspiré. Alors il ose donc, cet inconnu, il est inconnu au début, cette espèce d'outsider des lettres, bien, il ose s'attaquer non seulement aux littérateurs en vogue, mais imaginez, il s'attaque aux puissances reconnues. Il s'attaque à Émile Ludwig, imaginez, et même à Thomas Mann, prix Nobel. Il sait qu'il a tout à y perdre, et qu'il libère ainsi un certain nombre de consciences, surtout parmi les jeunes, en même temps que la sienne propre. Et au cours de la guerre, 14-18, là, loin de se laisser entraîner par le nationalisme serré puis fanatique là, dans lequel donnent tant d'intellectuels, il s'insurge contre les journalistes qui citent Fichte, un autre dont on pourrait peut-être aborder Fichte un jour. Donc, qui cite Fichte à tort et à travers, qui insulte Bergson, dont je vous ai parlé le 3 janvier dernier, on a fait une belle heure sur Henri Bergson, puis ces gens qui ne s'entendent pas plus à la philosophie que lui-même à la stratégie, ils s'attaquent aussi dans ces orgies de phrases auxquelles se livrent les deux camps. Ils demandent qu'au moins on fasse un silence, qu'on fasse aussi en silence la besogne maudite, comme il dit, du journaux. Mais il va flétrir avec la même vigueur le blasphème de Versailles à la fin de la guerre, hein? Et les alliés qui retiennent les prisonniers de guerre au-delà du terme fixé par leur engagement, hein? Vous savez que nous, les alliés, nous étions entendus avec les Allemands, puis on n'a pas observé nos promesses. Oui, oui, ça nous est arrivé. Les vainqueurs, dit-il, ont perdu l'honneur. Et nous, ça, les alliés. Tout comme l'avaient perdu les vaincus. Et cette indignation contre les fausses valeurs se fait plus âpre encore en tout ce qui touche à la religion. Ce protestant convaincu ne déteste rien tant que le protestantisme libéral d'un arnaque. Bon, j'ai pas l'intention de vous parler de arnaque, c'est un penseur allemand qui s'était intéressé beaucoup à la Bible, et il a été terrible, il a écrit des choses, mais au fond, il avait raison sur plus d'un point. Faut quand même, avec le temps, comprendre. Et puis, il aimait pas non plus, dans le protestantisme libéral, Trulsch, dont on peut se demander s'il croyait encore à la divinité du Christ. De toute façon, ces gens-là n'y croyaient pas. Comme on voit aujourd'hui dans les grandes revues américaines, je les ai achetées toutes les trois, n'est-ce pas? US News and World Report, puis Time Magazine, puis Newsweek, j'ai lu ça. C'est bien fatigant de lire ça aujourd'hui. Toute cette attaque contre le Christ, l'attaque contre la résurrection du Christ, l'attaque contre sa divinité, l'attaque contre le catholicisme, attaque, on attaque partout. Hein. Mais c'était comme ça à l'époque avec ces gens-là. Alors au contraire, avant comme après sa conversion, Theodor Hecker parlera avec un grand respect d'un Blumhardt, d'un Hilti, qui sont des protestants qui accomplissent la parole, dit-il, du célèbre théologien catholique Müller, selon laquelle la vraie controverse entre les deux confessions, catholique et protestante, ne devrait être que la glorification du Christ. C'est donc vrai, ça. Et cette attitude, qui lui apportait aucun confort, il était pris entre deux. Ça consistait, en fait, à combattre toujours l'injustice où qu'elle se trouve. Mais il était un peu pris comme Bernanos, Georges Bernanos, dont je vous ai parlé aussi, qui était attaqué de toutes parts. Mais ça n'a rien à voir avec celle des tièdes. Les tièdes que le Seigneur vomit, selon le texte de l'Écriture. C'est Dieu qui dit qu'il vomit les tièdes. Hecker n'était pas un tiède. Il a toujours cherché la vérité partout où elle était, dit-il. Il écrit cette belle phrase, « J'étais en route lentement, opiniâtrement, et avec l'aide d'en haut. » Oui. S'il a pris le fouet vengeur, un peu comme le Christ dans le temple, c'est pas seulement pour une idée ou un idéal. Il écrit, « J'ai combattu aussi pour moi-même, contre le propre désespoir menaçant, et pour la connaissance de moi-même. » Il se peut qu'il y ait des hommes qui se trouvent immédiatement. Je ne suis pas cela. J'ai dû faire de grands détours avant de parvenir à moi-même et pour que mon âme s'élance hors de l'océan de mélancolie où elle menaçait de s'engloutir, vers les étoiles éternelles de l'espérance, car toujours brille une lumière qui n'est pas de ce monde. Que c'est beau. Ces Allemands souvent nous écrivent des choses sublimes. Alors une conversion reste toujours, en dernière analyse, l'œuvre de quoi? Mais de la grâce de Dieu. Dieu seul connaît l'ensemble d'une conversion, dit Hecker. Ce sont ici certains souvenirs d'enfance, en particulier le culte extraordinaire de sa mère pour les anges. Oui, elle avait un culte extraordinaire pour les anges et ça l'a marqué. Son respect pour les droits de l'intelligence aussi. Sa passion du vrai. Puis la droiture de caractère de Hecker, qui avait mis sa vie en accord avec les principes moraux de l'Évangile. C'est un très bon protestant. Deux grands esprits, qui lui sont l'un et l'autre apparentés de quelque manière, ont frayé son chemin intellectuel vers la foi. Et c'est Søren Kierkegaard. Kierkegaard, comme j'ai hâte de vous en parler. Ce bossu dont l'infirmité le rendait très mélancolique et qui, sans devenir catholique ou sans vraiment adhérer, disons, à une église proprement dite, était l'un des plus grands penseurs chrétiens des temps modernes, Kierkegaard. Et l'autre, eh bien, c'est Newman, dont je vous ai parlé le 11 août dernier, en même temps que je vous avais parlé de Sainte-Claire. John Henry Newman, prêtre anglican, illustre parmi tous les prêtres anglicans d'Angleterre, est devenu prêtre catholique et finalement cardinal, et qui est mort comme un saint. Eh bien, Théodore Hecker a reproché à Descartes son péché d'abstraction, à Rousseau et au jeune Goethe leur sensibilité débordante. Il a reproché à Martin Luther, dont je vous ai parlé le 16 février dernier, on a fait une belle émission avec Luther, quel homme intéressant malgré tout, on dit ce qu'on voudra. Et puis il a reproché donc à Luther, et de plus en plus amèrement, cette blessure la plus profonde et la plus douloureuse des Allemands, dit-il, la division des croyances. C'est Luther qui a divisé les croyances. Quelle tristesse. Où en sommes-nous rendus dans ces divisions? Innombrables, elles sont par milliers, les milliers d'églises. C'est triste. Le cœur se sent au contraire en affinité avec Kierkegaard, qui lui propose de constants sujets de méditation. Il lui a consacré deux grandes études. Il a traduit plusieurs de ses œuvres et de larges extraits du journal passionnant, en y ajoutant des préfaces ou des postfaces. Alors on comprend sa sympathie pour ce grand Danois, Kierkegaard, en quête de vérité. Lui aussi un intransigeant comme lui, pour qui le christianisme est l'objet d'un choix tragique, du choix absolu, comme dit Kierkegaard. Maintenant, dit Ecker, en évoquant la pensée de Kierkegaard, qu'il fait sienne, l'homme a retrouvé sa place. Maintenant, la vie est redevenue dangereuse comme au jour où elle a pour la première fois regardé la mort en face. Et elle est toujours et à chaque instant en ce monde selon un dessein insondable, à toute minute et en tout temps. Pour celui qui vit et veille ainsi, le monde est comme au jour où, pour la première fois, la connaissance déchira le tendre rêve enfantin et où le monde fut mis à nu. Dans ce monde dépouillé, le Christ n'est pas crucifié par hasard, et une seule fois, mais nécessairement et pour tous les temps, de sorte que celui qui veille et vit ainsi doit comprendre les paroles profondes de Pascal, « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Alors, Theodor Hecker a cheminé à côté de Kierkegaard jusqu'au bout de son protestantisme. Il a admiré, aimé ce génie religieux, Kierkegaard, le solitaire, martyr du combat pour Dieu. Il n'en voit pas moins ses insuffisances. Ce qu'il y a d'opaque dans sa prise de conscience, de sombre et de désespéré dans sa nature. En quoi notre époque peut reconnaître, évidemment, la marque de son propre déchirement, hein? Un accent de sa plainte, de son soupir et de son attente anxieuse, comme le dit Hecker. Kierkegaard a conduit Hecker à Newman, dont l'enseignement et l'exemple ont été décisifs pour sa conversion. Le philosophe danois et le cardinal anglais présentent des analogies par leur recherche fervente et par plusieurs points de leur doctrine. Dans ma conscience, Dieu a jeté un regard sur moi. Il m'est désormais impossible d'oublier qu'il me voit, avait écrit Kierkegaard. Or, pour Newman aussi, la conscience est le premier maître de religion. Et elle le demeure même après avoir été instruite par la révélation. Ayant reconnu clairement les difficultés intellectuelles de la foi, Newman veut montrer que la vérité du christianisme et du catholicisme a une base conforme à la raison. Et sans nier un instant la part de responsabilité de chacun dans son adhésion ou son refus, là, il n'a jamais pensé que l'on vient au-devant de la foi par un froid syllogisme. Mais Hecker a traduit deux des livres les plus importants de Newman, « Grammaire de l'assentiment » et cet essai extraordinaire, « Essai sur le développement de la doctrine chrétienne ». En présentant au public allemand ce deuxième ouvrage, Hecker souhaite qu'il soit lu par ceux qui cherchent, scrutent, sont inquiets, soucieux, altérés d'une vérité pleine, totale, appuyée sur l'autorité, comme l'a été le traducteur lui-même, d'ailleurs, hein, et que Newman leur soit une aide dans leur préparation à la foi. C'est en 1921, donc, que Theodor Hecker se convertit, enfin, à la foi catholique, à laquelle il aspirait de tout son être. À partir de ce moment, il adopte, sans aucune difficulté, mais toujours avec la même maîtrise, le langage de l'Église catholique. La foi catholique n'aura pas désormais de meilleur défenseur. Que ce soit dans son ouvrage publié 6 ans plus tard, « Christianisme et culture », 1927. Dans son grand livre sur Virgile, père de l'Occident, car il faut dire que c'était un spécialiste de Virgile, cet autodidacte, il a publié en 1931. Il a publié aussi « Qu'est-ce que l'homme ?» en 1933. « Créateur et création » 1934, Le chrétien et l'histoire en 35, c'est un essai de Théodicée. L'esprit de l'homme et la vérité en 937. Toute la recherche, toute la philosophie de Hecker ont pour objet les rapports de l'homme avec Dieu. Il sait que la foi a une origine surnaturelle, mais sur les traces du cardinal Newman, il cherche à embrasser du regard le terrain qui y mène pour le déblayer. La foi n'a rien d'une évidence mathématique, mais cependant, il dit, il y a d'autres certitudes d'ordre naturel qui intéressent notre existence de façon plus décisive, qui pénètrent notre vie jusqu'à la moelle. Et là, il pose des grandes questions, comme je vous les ai exposées le 1er avril dernier. Dieu est-il? Qu'est-il? Et les questions que j'ai développées aussi le 2 novembre dernier. Notre âme est-elle immortelle? Survivrons-nous après la mort? Il est vrai que certains esprits, exceptionnellement puissants, ont de ces vérités une certitude péremptoire. Mais tel n'est pas le cas pour la plupart des hommes. Il faut donc sauver et tirer de l'obscurité cette espèce de savoir de la foi. C'est ce qu'oublient trop ceux qui méprisent l'intellect. Mais la foi requiert de l'homme plus encore que cet effort intellectuel. Il écrit une de ses plus belles pages, une page admirable que je vous lis au complet. Tellement c'est beau. Ouvrez bien vos oreilles, ouvrez votre cœur, absorbez la pensée de cet homme décédé, mais vivant par sa pensée encore dans nos cœurs. Il écrit, « Je ne puis prouver ni démontrer à un questionneur passionné l'immortalité de l'âme, de la même manière que l'exactitude du théorème de Pythagore. Il n'y a pas de doute sur ce point. La marge obscure de mystère et d'incertitude est trop grande, qui enveloppe la lumière de la preuve et l'affaiblit plus ou moins jusqu'à supprimer sa puissance lumineuse. Elle a besoin d'autres forces, et aussi de la libération de ses forces. Et c'est sans aucun doute la libre décision de la volonté au sens d'un risque et d'un mérite moral. Si j'ai dit un jour que toute proche de la définition classique de l'homme comme animal rational et animal rationali, c'est en latin, se trouve aussi cette définition qui est le seul être vivant, oui, nous sommes le seul être vivant possédant le langage, qu'il est l'homme, pour ainsi dire, animal loquens, animal parlant, je traduirais. Et Hecker ajoute, je pourrais finalement définir l'homme comme le seul être vivant qui croit, et qu'il est, pour ainsi dire, animal credens, animal croyant, quoi. Car ni l'animal, d'une part, l'animal ordinaire, ni l'ange ne croit. Avez-vous déjà pensé à ça? Il n'y a pas d'animaux qui croient. Il n'y a pas d'ange qui croit. L'animal ne le peut pas, dit Hecker. Pour celui-ci, l'ange, ce n'est pas nécessaire de croire. Et il dit quelque chose de sublime. Dans ces questions suprêmes et ultimes, la volonté libre est invitée au choix ultime et suprême, le plus absolu qui puisse exister en ce monde pour la volonté humaine, le choix entre le vrai et le faux, ou de façon analogue, entre le bien et le mal. En somme, on en arrive à choisir entre l'immortalité de l'âme ou sa chute dans le néant au moment de la mort. Qu'est-ce qui vous semble vrai? Qu'est-ce qui vous semble bien? C'est évident que Dieu nous a créés. Nous aurait-il créés pour rien? Une grande farce, dans un grand rire sardonique, une vie qui dure 20 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans, pour rien. et nos corps seraient jetés dans la terre, après que nos âmes se seraient dissoutes dans le néant. Pour ma part, je n'en crois rien. Je crois fermement de tout mon être et je n'ai jamais cessé d'y croire. Suis-je pris de ces espèces de certitudes péremptoires dont parle Ecker? Certitudes, pour moi, totalement évidentes, que nous sommes au cœur de cet univers, nous, les êtres vivants, humains, hommes et femmes, et que nous sommes ici pour reprendre tout cet univers dans notre cœur et l'offrir à Dieu, comme une grande gerbe, dans nos acclamations, nos prières, notre adoration, et surtout dans l'amour qu'il fait jaillir dans nos cœurs, lui, Esprit Saint, Esprit d'amour, qui unit le Père et le Fils de toute éternité. C'est ça, vivre, et c'est ça, le bien. Cessons de chercher, donnons-nous, et prenons conscience que nos âmes sont immortelles. L'accent mis sur le rôle de la volonté dans l'adhésion à Dieu chez Ecker, c'est essentiel pour expliquer son attitude au temps du national-socialisme, le nazisme. Ce qui est passionnant dans le cas de ce grand converti, c'est moins encore l'histoire de son cheminement vers l'Église catholique que celle de sa fidélité. Ecker a lutté contre Dieu comme Jacob avec l'ange. Nous en avons le témoignage le plus direct, le plus émouvant. Faut comprendre que le national-socialisme est arrivé au pouvoir en 1933. On se doute bien que Ecker, catholique déclaré, insensible à toute menace comme à toute séduction, est tout de suite tenu comme un suspect. On le prend pour on le suspecte. Et le 20 mai 1933, bien déjà, au tout début, la Gestapo l'arrête, une première fois. Cette Gestapo, ai-je besoin de vous expliquer aux plus jeunes, ou à des gens qui ne connaissent pas le mot, parce qu'il paraît que ces mots disparaissent dans la mémoire humaine. C'est la police nazie abominable, terrible, terrible. Et cette police l'interroge au sujet d'une étude sur la croix gammée, qui était le signe des nazis, ai-je besoin de le dire, une croix brisée, n'est-ce pas? Une étude qu'il destinait à cette courageuse et belle revue d'Innsbruck, le Brenner. 2 ans plus tard, en 1935, défense lui est faite de parler en public. Voilà ce qu'on fait avec les catholiques. C'est un peu comme ici. Entendez-vous souvent des catholiques sur les ondes de Radio-Canada? Aux émissions profanes, le point de vue d'un catholique? Jamais. Entendez-vous des catholiques même le vendredi saint au soir parler en ondes? Mais pas du tout. On vous parle des artistes qui sont allés à New York. Entendez-vous le jour de Pâques des émissions catholiques ou chrétiennes, sérieuses, comme on en fait à la télévision française? Non. Ici, nous sommes réduits au silence. Heureusement qu'il y a Radio Ville-Marie. Hein? Heureusement. Et alors, à partir de 1938, on prétexte le manque de papier pour lui enlever le droit de publier ses œuvres. Et sa femme, finalement, était morte en 1935. Hein? Et lui-même est malade, il est condamné au silence. Alors que sa meilleure satisfaction avait été de s'exprimer pour ses lecteurs. Mais en dépit des interdictions, il écrira encore, de préférence la nuit, d'où le titre qu'il donne à son journal, Tag und Nachtbücher, c'est-à-dire le journal est nocturne. Il sait en effet que la Gestapo ne choisit guère les heures de nuit pour ses visites. Mais fais attention. Il va lui arriver un événement formidable. D'ailleurs, en ces temps de danger, dit-il, et je puis bien me flatter de vivre en ces temps de danger, l'art de vivre consiste à pouvoir délimiter de courts instants de sécurité, en sorte que la représentation du danger qui viendra très certainement n'acquiert aucun pouvoir sur l'âme avant cette limite proche. Et ça, c'est très beau. Vous qui êtes inquiets, là, écoutez bien ça. Lui qui vit dans une inquiétude épouvantable, il ne sait jamais quand est-ce qu'il va être pris, assassiné, envoyé dans un camp de concentration. Il écrit « Jusqu'à ce que 8 heures ne soient écoulées, je n'ai rien à craindre sinon Dieu, et il est une crainte pleine d'amour. » Jouissons donc en paix de ces 8 heures de sommeil, là, éventuellement dans un paisible sommeil, voyez-vous. Jusqu'à ce que 8 heures ne se soient écoulées, je n'ai rien à craindre de Simon Dieu, il est une crainte pleine d'amour. Quelle foi! Quel exemple pour tous nous, nous tous qui sommes inquiets! Quelle admirable illustration de ce texte de l'Évangile sur l'abandon de la Providence. Je vous parlerai le 17 avril de sœur Jean-Baptiste, une sœur de la Providence, qui a écrit un très beau livre sur l'abandon. Alors Hecker médite sous sa lampe voilée. On entend parfois les sirènes, puis l'éclatement des bombes, sa plume dont il a toujours fait un usage absolument vrai et loyal, mais sa plume demeure sa consolation. Il écrit d'ailleurs, tout bien pesé, ces nuits solitaires passées à écrire sont pourtant ce que Dieu m'a accordé de plus beau, occasion et motif d'éternelle gratitude. Il ajoute, je suis certes isolé de tous les hommes, mais je suis d'autant plus absolument devant Dieu, mon partenaire avec un grand P, partenaire Dieu, est le grand toi avec un T, majuscule T-O-I, est le grand toi. Le plus ancien, qui est éternel, avant que je sois. Le toi, toujours T majuscule OI, le toi transcendant, mon créateur, mon Seigneur et mon Dieu. Il est vraiment passionné et amoureux de Dieu. Et né de circonstances dont personne plus que lui n'a senti l'horreur, son drame, oui, dépasse l'histoire d'une époque, d'un temps, et devient le drame même de l'âme humaine devant le problème du mal. Hecker a fixé ce drame avec un regard sans faiblesse. La souffrance physique, même terrible, il l'a supportée, oui. Mais la souffrance d'autrui, la souffrance des animaux irresponsables, ça vous fait pas mal des fois quand on voit des animaux qui sont irresponsables de tout et qui souffrent. Je me souviens d'un chat qui est mort chez moi. Quelle douleur j'avais. Ma pauvre petite chatte qui m'a accompagné 19 ans et demi. La souffrance des enfants, c'est encore pire. La souffrance, les enfants. La souffrance passée de son petit garçon à Hecker dont il parle et dont il garde un souvenir déchirant. La question insoluble se pose. Pourquoi, dit-il, cette répétition sans fin de toute cette indicible misère dans des milliers de générations? La foi livre ici ses plus durs combats. Or, la foi de Theodor Hecker, militante, intrépide, elle ne chancelle pas. Mais elle s'inquiète, elle s'interroge. Alors il y a des suggestions insidieuses, des réponses insuffisantes de la raison qui se succèdent dans sa tête sans répit. Et Theodor Hecker, qui a tant fréquenté Kierkegaard et Marc Scheller, sait qu'en dépit de la logique de saint Thomas d'Aquin, l'homme, le chrétien moderne, peut être en même temps heureux et malheureux à cause de ces échardes qu'il porte dans sa chair. Il parle des saints à un moment donné, c'est très beau. Troisième dimanche de l'Avent, dimanche Gaudete, réjouissez-vous. Et je le répète, réjouissez-vous. Parole qui nous étonne sans cesse. La façon toujours nouvelle, spontanée, mais identique qu'ont les saints de Dieu de manifester leur joie est une preuve de son authenticité, même pour celui qui ne l'a pas encore et qui ne l'a jamais eu. Aussi me contenterai-je, mon Dieu, de la lointaine et pâle joie de savoir que vos vrais saints la connaissent telle que l'apôtre l'a décrite. Gaudete, réjouissez-vous. Alors, comme chez les mystiques, Dieu est souvent donné dans les ténèbres ou la pénombre de l'esprit. Tant la nuit était une lumière, dit-il, qui redevint nuit. On s'éveille, les yeux et les joues mouillés de larmes. On sait qu'on a fait un rêve, mais on ne sait plus ce qu'on a rêvé. Et pourtant, à partir de cette nuit-là, la vie est autre. On a reçu en partage une lumière qui fait apercevoir une toute nouvelle dimension de l'être. Mais la source de cette lumière est dans une totale obscurité. Si Dieu ne peut plus diriger les cœurs comme les torrents déchaînés, continue Hecker, alors tout est fini. Suis-je sans foi, ni espérance, ni amour? Non. Mais il fait nuit. Une nuit, cependant, qui est en même temps refuge et asile, envoyée, pour ainsi dire, par la lumière. Alors il y a des éclairs de joie aussi. Il dit « Dieu se laissera trouver ». Et la certitude de se faire comprendre par lui, d'être compris de lui, c'est un reflet de la félicité. Tout était si noir dans ma vie, et Dieu l'a illuminé. Ne l'oublie pas, ô mon cœur, ne l'oublie pas. Oh, ce sont des paroles clés, ça. Mettez ces paroles-là dans votre mémoire, hein, que Dieu ne se laissera trouver. Et la certitude de se faire comprendre par lui, d'être compris de lui, c'est un reflet du bonheur. Oui. Ecker a été arrêté une seconde fois le 14 mars 1940. Il écrit « Si je mourais aujourd'hui, en complet désaccord avec l'état d'esprit qui règne dans mon peuple allemand, je ne mourrais pas désespéré. Et ne serait-ce pas là aussi un témoignage ? Car triste, mes amis, triste, oh oui, on peut se permettre de l'être aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'ai des difficultés. » Et je vis sous un nuage, mais j'ai une méthode infaillible. Quand les difficultés deviennent trop grandes, je me jette dans l'incompréhensibilité de Dieu. Cette incompréhensibilité m'abrite. Non pas elle seule, naturellement, mais la grâce de Dieu, elle me porte, même dans cet abîme. Je ne mourrai pas désespéré. La question, donc, que forme le centre des préoccupations de Ecker est d'ordre philosophique et religieux. Le royaume de Dieu doit-il déjà se manifester ici-bas, ou l'histoire humaine fait-elle à Satan la part la plus belle? On peut se le demander. Hein? Est-ce que le royaume de Dieu, est-ce qu'il va se manifester? Ou si c'est Satan qui règne tout le temps, on dirait des fois, hein? Quand on est pessimiste, hein? Quand on ne voit plus que ce qui est terrible autour de nous. Alors l'humanisme moderne a bruyamment soutenu que le bien doit toujours triompher, même dans le temps. Mais Ecker lui reproche vigoureusement cette hérésie. Il écrit « Où en trouve-t-on un mot dans l'Évangile? Quelle lettre de notre profession de foi dogmatique porte une trace de cet esprit? » Et pourtant, il ne se défend qu'avec peine contre cette tentation, son obsession et son tourment. « Dieu, dit-il, est-ce pendant tout puissant? Tout puissant. Réfléchis à ce que cela signifie. Il faut donc qu'il donne aujourd'hui à Satan et à certains hommes, le sachant et le voulant, le pouvoir de commettre les horreurs et les dévastations de ces jours. N'oubliez pas que c'est un Allemand sous régime nazi qui écrit. Hein? Oui, c'est vrai, ajoute-t-il, la toute-puissance de Dieu est facile à concevoir. Et en somme, va de soi. C'est ce que Dieu permet qui est inconcevable. C'est l'inconcevable ce que Dieu permet. Mon Dieu, faites que je sois impuissant devant vous. Faites que j'ai tort. Alors il appelle le triomphe de Dieu en ce monde, avec des accents qui, par leur ferveur, se confondent avec ceux des psaumes, puis des grands prophètes d'Israël. Il écrit une prière sublime, une des plus belles prières que j'ai vues de ma vie. Montrez-vous. Que vos moulins ne tournent pas trop lentement. Montrez votre amour et votre justice. Ne laissez douter personne que vous êtes le maître. Ne laissez personne dans le doute. Ah, quand sera-ce donc l'heure de Dieu? Ne viendra-t-elle cette heure? Pourquoi ne venez-vous pas? Venez, oui. Venez. Êtes-vous éternellement dans l'impuissance? Ô Seigneur, ô Seigneur, vous laissez s'amoindrir ma foi, laissez-moi au moins l'amour. Ne m'induisez pas en tentation. Moi, suis-je donc seul? Ne nous induisez pas en tentation. Et le 15 juillet 1941, alors que toute la Russie s'abreuve de sang, du sang des Allemands, du sang des Russes, cette guerre abominable. Il se demande s'il y a encore un sens à rechercher, le sens du monde. Tout s'est effondré, écrit-il, il ne reste que la promesse chrétienne. Oui, dites-vous bien dans ce monde d'aujourd'hui que tout s'est effondré peut-être, il ne reste que la promesse chrétienne. Bien oui, c'est vrai, c'est très vrai. Très, très, très vrai. Seul le christianisme Seul le christianisme est un rempart contre la barbarie qui nous assaille. Dès le 30 décembre 1940, en plein triomphe militaire du régime nazi, il prévoit la misère promise à l'Allemagne, mais aussi la chute des plus terribles criminels, dit-il, qui la dirigent. Alors, il y a 1941, 42, 43, et là, des étudiants de Munich ont organisé le mouvement de résistance dit de la Rose Blanche. Avez-vous déjà entendu parler de ça, vous, les jeunes? Ce mouvement de résistance contre le nazisme qui s'appelait la Rose Blanche? Écoutez bien cette histoire. Modelez-vous sur ces jeunes Allemands. Ces jeunes rédigent, publient, diffusent des tracts contre Hitler. Imaginez le courage que ça prenait. Je vous donne les noms, de beaux noms allemands. Hans Scholl, 25 ans. Sa sœur Sophie, 22 ans. Leur ami Christoph Probst, 24 ans. Déjà père de 3 petits-enfants. Sont dénoncés, décapités le 22 février 1943. Le professeur Kurt Huber, Alexander Schmorl et Willy Graf subissent le même sort en juillet. Nous connaissons les sentiments qui les animent par le journal de Russie de Hans Scholl, les lettres de Sophie Scholl et le récit des événements par leur sœur Inge. Elle rapporte dans une langue toute simple, toute objective, sans jamais hausser le ton, la courte histoire de ces jeunes, leur révolte née de leur foi chrétienne, les difficultés qu'ils rencontrent, leur abnégation pour les vaincre, leur arrestation, leur dernier moment, leur incroyable courage devant la hache du bourreau. Sophie Scholl écrit le 7 février 1943. Très peu de jours avant l'arrestation. Le jour de ton anniversaire, Theodor Hecker était chez nous. Ce furent des heures enrichissantes. Ces paroles tombent lentement comme des gouttes que l'on a vues se former et qui tombent dans une attente avec une pesanteur toute particulière. Il a un visage très calme, des yeux comme s'il regardait vers l'intérieur. Personne ne m'a encore autant convaincu avec son visage. Peu après ces douloureux événements, une nouvelle perquisition a lieu au domicile de Theodor Hecker. Il lui arrive quelque chose de fantastique. Il ne faut pas abuser du mot miracle, mais on peut bien voir le doigt de Dieu dans les circonstances qui ont sauvé du même coup l'écrivain et l'œuvre. Témoignage d'un si haut prix. La Gestapo se présente donc. Hecker est seul à la maison. Il n'a pas eu le temps de dissimuler la serviette qui contient les feuillets accusateurs. Alors les sbires, les policiers, fouillent les tiroirs et les armoires, sans se méfier de cet objet, qui livrait comme ça leur regard. Et soudain, la fille de Hecker arrive, mue par une angoisse qu'elle ne s'explique pas. Elle entre dans la chambre, et tandis que les policiers nazis poursuivent leur besogne, elle prend la serviette. C'est fantastique, hein? Et s'en va en hâte, prétextant qu'elle est déjà en retard pour sa leçon de piano. On la laisse passer. Elle court au presbytère proche et dépose le contenu de la serviette, la remplit de cahiers de musique, puis, inquiète pour son père, rentre à la maison. Le professeur de piano était absent, dit-elle au policier. Ah oui, en éveil, ils ouvrent la serviette. Et ce ne sont en effet que d'innocents cahiers de musique. Formidable. Alors, le journal de Hecker ne contient plus que peu de pages après cette date. Il écrit, le 9 juin, vendredi, vers 10h du matin, dans la cave, bombe explosive. Destruction de la maison et de mon appartement. Dévastation sans précédent. Beaucoup de bonnes personnes secourables qui consolent par ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Scholl. C'est probablement le père des victimes. Il écrit simplement son nom, Scholl. Quelques crapules, des âmes nobles, de petites âmes. Dieu est miséricordieux. Dieu est magnifique. Dieu est précis, mais magnifique. On ne peut me faire aucun tort. Le plus sûr tribunal de l'humilité est la croix à laquelle on est attaché avec le Christ. Il écrit cette belle phrase, la fierté qui, après cela, maintient encore son droit. Qu'on l'ait donc, cette fierté. Celle-là, on peut l'avoir sans danger. Alors, les attaques sur Munich se multiplient. Et privé de son appartement et ses livres, Theodor Hecker trouve un refuge plus que modeste à Oosterbach, village des environs d'Augsbourg. C'est là où est né le luthéranisme. Grâce aux efforts d'une domestique dévouée, la guerre a dispersé ses amis. Sa fille est obligée de rester à Munich. Et malgré les visites qu'elle lui rend, aussi fréquentes que possible, il est très seul. Un de ses fils est déjà soldat. La dernière levée ordonnée par le loup d'enfer au dernier jour de la guerre lui prend encore l'autre fils qui n'a que 17 ans, celui-là. Alors tant d'épreuves l'ont physiquement brisé. Ils n'ont pas abattu son âme. On peut lire dans son journal « La prière est la première chose que j'ai à faire. » Que c'est beau, hein? C'est simple. La prière est la première chose que j'ai à faire. Et c'est aussi la dernière que je puis faire dans l'extrême faiblesse avant la mort. Et ensuite vient le travail qu'il me faut accomplir encore tout le temps que j'en ai, tant soit peu la force. Alors il tient parole. Il poursuit la tâche, qui fut celle de toute sa vie. Écrire pour servir Dieu et sa foi catholique. La métaphysique du sentiment, c'est le titre de d'un de ses livres, à laquelle il travaille, ne paraîtra qu'après sa mort. On peut y lire cet acte de foi. Nous ressusciterons avec nos sens comme le Christ est ressuscité dans son humanité. Et bien heureux dans la contemplation bénie de Dieu, nous serons en possession de notre pensée, de notre sentiment et de notre volonté. Alors rien ne lui est épargné. Un jour, il est envahi par un pressentiment. Il n'a pas encore appris, mais déjà il sait que son plus jeune fils vient d'être tué. Quel attrait la vie garde-t-elle pour lui? Cependant, Dieu a pitié de son drame intérieur. Les faits ont apporté la réponse à la question qu'il lui posait si obstinément. Le régime a pris fin dans la boue. Et dans le crime, le régime nazi. Il écrit, c'est beau ça, j'avoue que la victoire du parti m'aurait induit en grande tentation de voir là une preuve de la non-existence de Dieu. Ou tout au moins, oh mon Dieu, pardonnez au pauvre insensé que je suis, torturé jusqu'au sang. Pardonnez ce brouillard de blasphème, pardonnez-moi. Très sainte Trinité, pardonnez-moi de comprendre tout au moins ceux qui risqueraient d'abandonner et de ne plus croire et de désespérer. Il y a des juifs comme ça qui ont désespéré dans les camps de concentration, qui ont eu cru que Dieu n'existait plus. Il faut les comprendre. Or, Theodor Hecker s'est éteint il y a juste un peu plus de 50 ans. Le 9 avril 1945, et suprême victoire de l'esprit, ces hommes qu'ils n'avaient tant détesté qu'en raison de leur haine de Dieu. Ils pouvaient aussi les considérer comme ses ennemis personnels à cause du mal qu'ils avaient fait à ceux qu'il aimait et à lui-même. Il leur a donc pardonné avant de mourir. Oui, il leur a pardonné. Dans le cas du nazisme, il écrit, « Le diable avait fait de mauvais calculs, le capital d'idées, qu'en sa qualité d'antéchrist, il avait jeté dans cette tentative, était décidément trop pitoyable, même aux yeux de ce monde déchu, pour qu'il pût le prendre par là. » Mais est-ce qu'on pourrait pas croire que l'Antéchrist ne ravage pas notre monde sous d'autres aspects, d'autres façons plus subtiles, et nous nous laissons tous prendre? Seul le regard de la foi permet à Hecker de ne pas désespérer en présence des plus terribles événements humains. Ce grand, cet immense et ce merveilleux converti a montré comment, dans les épreuves, la confiance en Dieu peut se maintenir et s'affirmer. Theodore Hecker. Je vous l'appelle comme j'ai fait au début, pour ceux qui sont arrivés en retard. Hecker, H-A-E-C-K-E-R. Theodore Hecker. Repose dans le petit cimetière d'Usterbach. Si vous allez en Allemagne, c'est U-S-T-E-R-B-A-C-H. Qui entoure l'église. Des collines, des forêts de sapins qui limitent l'horizon de leur ligne un peu mélancolique et très douce sont si caractéristiques du paysage soie du sud de l'Allemagne. Elles conviennent bien à celui qu'a tant aimé Virgile. Et depuis la mort de Hecker, son nom grandit sans cesse, son œuvre se répand, elle est vivifiante. Il avait écrit dans son journal: si je dois encore souffrir beaucoup et gravement, mon Seigneur et mon Dieu, faites qu'un peu de cette confiance soit digne de servir votre nom, votre abaissement et aussi votre gloire. Dieu a exaucé la prière de son serviteur. Or, il a écrit d'innombrables ouvrages. Il y a eu des traductions de Kierkegaard, qu'il a fait en allemand, des traductions de Newman, traductions de Virgile, de Francis Thompson, de Hilaire Belloc. Il a publié une anthologie des œuvres de Stolberg. Et puis, en français, on a quelques-unes de ses œuvres. La notion de la vérité chez Søren Kierkegaard, etc., une métaphysique du sentiment.